Chapitre 11. Les nanoparticules s'étant mises en sommeil, le temps de recharger leur batterie, Peggy se trouva privée de sa vision nocturne. D'un seul coup, le labyrinthe à travers lequel elle s'était jusqu'alors déplacée sans avoir besoin d'allumer une lampe, se changea en un parcours ténébreux, une galerie de mines où elle risquait à tout moment de basculer au fond d'une crevasse. En arrivant à la hauteur du poste de garde, elle eut la présence d'esprit d'y récupérer une lanterne fonctionnant à l'huile de phoque. Ce photophore artisanal présentait par ailleurs l'avantage de pouvoir également servir de calorifère. C'est en cet équipage qu'elle entreprit de remonter le réseau souterrain afin de rejoindre l'aérodrome. Comme il fallait s'y attendre, elle s'égara à 3 reprises, perdant un temps précieux. Sa température interne s'abaissant dangereusement, son esprit s'engourdissait. La plupart du temps, elle avançait comme une somnambule, ne sachant quelle décision prendre. Les crises d'amnésie et la stupeur pathologique qui accompagne l'hypothermie ne lui facilitaient pas la tâche. Il lui arrivait de s'immobiliser au sein de l'obscurité, incapable de se rappeler comment elle était arrivée là, ni même où elle se trouvait. Chaque fois qu'elle cessait de bouger, la torpeur s'emparait d'elle et ses paupières se fermaient sous le masque antifroid protégeant son visage. Dans ses rares moments de lucidité, il lui arrivait de se rappeler que la mort de Gronski provoquerait la dislocation du tabulaire et que le virus était déjà à l'œuvre, gangrénant l'organisme affaibli du marchand d'armes. Combien de temps résisterait-il à la septicémie? Si ça se trouve, se répétait-elle, il ne tiendra même pas 24 heures. Elle consultait de plus en plus souvent son chronomètre. Alors qu'elle se croyait sur le point de s'évanouir, les nanoparticules se réveillèrent, reprenant le contrôle de son corps. Dès lors, elle souffrit moins et se déplaça plus rapidement. Ses yeux avaient recouvré la faculté de voir dans les ténèbres, ce qui s'avéra de la plus haute utilité. Quand elle émergea enfin des ruines de la tour de contrôle, il neigeait. Il lui restait moins de 6 heures pour rejoindre Blackfinger Junction. Même en utilisant le Snow Cruiser, un tel exploit relevait de l'impossible. Yumiko avait flairé le danger. Dès qu'elle avait vu Peggy s'éloigner du château de glace en toute hâte, elle avait compris qu'une catastrophe les menaçait. Aussi, pendant que son ennemi s'enfuyait, s'était-elle glissée dans le palais à la recherche de marchands d'armes. Elle fut surprise par la transformation physique de l'homme qu'on lui avait jadis ordonné de contaminer. Gronski, lui, l'a reconnue au premier regard. « Oh 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 » ricana-t-il à la manière d'un Père Noël maléfique. « Tu es la sale petite chink qui m'a refilé cette saloperie, n'est-ce pas ?» Et, heureux de lui rendre la monnaie de sa pièce, il s'empressa de lui expliquer comment sa mort entraînerait la destruction de la banquise. « En me tuant, vous vous êtes condamné, » siffla-t-il. « Stupide femelle ! Vous serez engloutie et congelée avant qu'un quelconque navire ait le temps de se dérouter pour se porter à votre secours. » Yumiko ne se donna pas la peine de répondre. Fouillant dans son sac, elle en tira plusieurs seringues remplies d'un produit dopant qui permettrait aux moribonds d'opposer une résistance accrue à la maladie. Elle s'approcha de Gronski pour lui planter l'aiguille dans la jugulaire et enfonça le piston. L'homme se contenta de grogner. Il avait depuis longtemps perdu toute sensibilité épidermique. Yumiko lui fit coup sur coup 5 adjections d'une médecine capable de transformer une rose promise à l'abattoir en pur sang. « Qu'est-ce que c'était ?» grommela le vieillard. « Yoku kikikisuri, » répondit la jeune femme en reculant. « Un remède de cheval. Tu vas mettre beaucoup plus de temps à mourir, camarade. » Puis elle tourna les talons et s'élança sur les traces de Peggy Mitchum. Elle n'eut aucun mal à la rattraper. L'Américaine clopinait dans les ténèbres, dans un état de stupeur qui diminuait considérablement son champ de conscience. Pas une seule fois, elle ne s'aperçut qu'on l'avait prise en filature et que sa pire ennemie se tenait derrière elle à 20 mètres à peine. Yumiko supposa que les nanoparticules, épuisées par les efforts fournis, avaient cessé d'épauler son organisme. Si cet état de choses se prolongeait, Peggy Mitchum ne tarderait plus à mourir. Elle consulta son chronomètre. Le temps filait. Ayant dévoré plus de la moitié de son attelage, elle ne pouvait compter sur le traîneau pour établir un record de vitesse. Quant au snowcruiser de Peggy, en supposant qu'il acceptât de démarrer, il ne dépasserait pas pédale au plancher les 30 km/h. Par beau temps, il aurait été possible de rallier Black Fingers avant l'apocalypse, de trouver un bateau et de s'éloigner du tabulaire avant qu'il ne se fragmente. Oui, mais voilà, les conditions météorologiques étaient déplorables. En outre, le vent soufflait dans le mauvais sens. « Il faudra marcher face aux rafales de neige, » songea Yumiko. « Ce sera épuisant. Et si le sort s'acharne, nous tournerons en rond dans la tourmente. Non, le délai est trop court. Nous n'y arriverons jamais. » Il aurait fallu disposer d'un hélicoptère, d'un avion. Quand Peggy émergea des ruines de la tour de contrôle, Yumiko lui emboîta le pas. La neige s'était remise à tomber, épaisse, réduisant la visibilité à 10 mètres. Soudain, la japonaise fut prise d'un doute. Et si Gronski se tirait une balle dans la tête afin de précipiter son trépas? Ce serait là une belle manière de nous faire la nique, se dit-elle. Mais en aura-t-il le courage? Elle songea au Makarov posé près du clavier de l'ordinateur. Pourquoi n'avait-elle pas eu la présence d'esprit de le confisquer? Trop pressée de se lancer à la poursuite de Peggy, elle s'était montrée négligente. Elle se maudit. Cela ne lui ressemblait pas. Elle, d'ordinaire, si méticuleuse. Instinctivement, elle scruta la glace du tarmac, comme si son regard détenait le pouvoir de sonder les profondeurs de la banquise à la recherche des charges disposées sur les lignes de fracture. Peggy passa sous le grand C-54 Skymaster pour se diriger vers l'endroit où elle avait abandonné le véhicule polaire. Une mauvaise surprise l'y attendait. La tempête avait enseveli le snowcruiser sous un monticule de neige compacte déjà gelé. Si elle voulait dégager l'autochenille, il lui faudrait attaquer cette couche durcie au piolet. Elle en aurait pour des heures. Dans son état de fatigue, c'était difficilement envisageable. Elle se mit néanmoins à l'ouvrage, frappant un coup redoublé pour débarrasser le véhicule de son carcan. « C'est fichu !» estima Yumiko dissimulée derrière le train d'atterrissage avant du C-54. Même si cette idiote réussit à dégager le camion, le moteur ne démarrera jamais. Les fluides ont dû geler dans les tuyaux. Il est resté trop longtemps exposé en plein vent. Pour la première fois depuis le début de la course, elle prit conscience qu'elle risquait bel et bien de mourir en même temps que son ennemi. Et cette perspective ne l'enchanta guère. Elle n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Elle consulta encore une fois son chronomètre. Elle était de plus en plus certaine que Gronski allait précipiter la catastrophe en se suicidant. C'est ce qu'elle aurait fait à sa place. Toute la banquise pouvait voler en éclats d'une seconde à l'autre. Ce n'aurait pas été grave si elle s'était sentie en meilleure forme, capable de se transformer en phoque, par exemple. Mais elle était exténuée, elle aussi. La lutte constante contre le froid, les métamorphoses, avaient épuisé les nanoparticules. On les sollicitait depuis trop longtemps. Elles avaient besoin de faire une pause. Dans un moment, elles cesseraient toute activité, entrant en sommeil pour une durée indéterminée. Quelques heures, quelques jours. Si entre-temps la banquise explose, songea Yumiko, je coulerai avec cette garce de gaijin. Non, elle devait d'ores et déjà envisager de se débrouiller seule, prendre ses précautions. Levant les yeux, elle avisa au-dessus de sa tête la trappe ventrale permettant d'accéder au poste du pilotage du C-54. Une échelle tordue y conduisait. Elle empoigna les barreaux et grimpa rapidement. Comme il fallait s'y attendre, le gel avait soudé les bords du panneau. Elle dut utiliser son briquet chalumeau pour réchauffer le métal. Lorsque le bourrelet de caoutchouc commença à cloquer, elle enfonça la trappe d'un coup d'épaule et se hissa dans le cockpit. Elle ne nourrissait aucune illusion. Il était inutile d'espérer faire décoller l'avion, surtout avec une aile tordue, un train d'atterrissage faussé et des réservoirs vides. Le Skymaster n'était qu'une épave bonne pour la casse. Un hôtel à pingouins. S'il en avait été autrement, l'US Air Force ne l'aurait pas abandonné lors de l'évacuation. Yumiko se refroidissait. Des frissons lui secouaient l'échine. Elle devenait vulnérable. Ramassée sur elle-même, pour essayer de conserver le plus possible sa chaleur corporelle, elle se mit en devoir d'explorer l'épave, du cockpit jusqu'au bout de la queue. Elle ne mit pas longtemps à trouver ce qu'elle cherchait. D'un conteneur coincé entre les membrures du fuselage, elle extirpa un canot gonflable, connecté à une bouteille d'air comprimé, qui faisait partie de l'équipement de sauvetage standard sur ce type d'appareil. C'était peu, mais c'était mieux que rien. Sans plus attendre, elle fit passer l'encombrant colis par la trappe d'accès et se coula à sa suite. Alors qu'elle posait le pied sur le tarmac, elle prit conscience que Peggy Mitchum avait cessé de piocher. L'Américaine gisait dans la neige, inconsciente. Le piolet, lui, était resté fiché dans la gangue de glace enveloppant le snowcruiser. Tant pis pour elle, songea Yumiko, qu'elle crève. Et elle entreprit de traîner le dinghy le plus loin possible de l'avion. Si la banquise se fendait, il était préférable de ne pas se trouver à proximité des épaves promises à sombrer dans les abîmes. Le C-54, les ruines de la tour de contrôle, engendreraient un formidable cône d'aspiration. Un maelstrom dont la succion ne ferait qu'une bouchée du canot de sauvetage. Yumiko haletait, les oreilles bourdonnantes. Le dinghy lui paraissait affreusement lourd. En outre, elle avait peur d'en cisailler le caoutchouc sur les aspérités de la glace. « Depuis 40 ans qu'il attend de servir, se dit-elle, il est probablement devenu poreux. C'est bien ma chance. » Elle dut s'arrêter pour s'oxygéner. Là-bas, Peggy Mitchum n'avait pas repris connaissance. « Cette conne va mourir gelée, » constata Yumiko. Cette perspective la dérangeait. Ce n'était pas la conclusion qu'elle souhaitait. Elle avait espéré davantage de panache. Cette fille allait rendre l'âme sans même s'en rendre compte. Non, ce n'était pas du tout satisfaisant. Leur affrontement, à peine commencé, ne pouvait se terminer de façon aussi banale. Cédant à une impulsion, la Japonaise revint sur ses pas. Malgré le vent qui lui coupait la respiration, elle chargea sur ses épaules le corps inerte de l'Américaine et s'en retourna près du canot. Là, elle s'effondra le cœur battant à tout rompre. Le sang gelait dans ses veines. Si les nanoparticules ne se réveillaient pas, elle allait mourir à deux pas de son ennemi, changée comme elle en statue de glace. Soudain, alors que ses paupières se fermaient, l'enfer se déchaîna. Une vibration sourde se propagea dans l'épaisseur de la banquise. 2 secondes plus tard, de gigantesques fissures apparurent à la surface du tarmac. Le sol se craquelait, telle une coquille d'œuf sous les coups de bec d'un poussin. Yumiko eut le réflexe d'arracher la goupille libérant la valve de la bouteille d'air comprimé. Le dinghy se gonfla. C'était un canot polaire, équipé d'une tente de protection destinée à protéger les rescapés du froid. Quand les boudins furent devenus rigides, Yumiko y transporta Peggy Mitchum, puis s'installa à ses côtés. Il n'y avait plus qu'à attendre, en priant que l'abîme ne s'ouvre pas sous le dinghy. Si cela se produisait, elle serait avalée par la crevasse et probablement broyée par les parois en mouvement. La Japonaise se rappela qu'on estimait l'épaisseur du tabulaire à 60 mètres. Cela représentait une sacrée chute. À présent, les crevasses couraient vers la ligne d'horizon en produisant d'horribles crissements. La plaine se disloquait. Certaines failles, plus importantes, avaient commencé à avaler les bâtiments de l'aérodrome. Le grand C-54 Skymaster bascula à son tour, et Yumiko, en le regardant s'enfoncer, eut l'impression de voir un oiseau blessé disparaître dans la gueule d'un chat. Ainsi, Gronsky avait fini par trouver assez de courage pour mettre fin à ses jours. Sans doute avait-il espéré, en abrégeant le compte à rebours, se venger des 2 femmes qui l'avaient condamné à mort. La banquise se désagrégeait. Des pans entiers de paysages se détachaient de la masse initiale du pack pour partir à la dérive. C'était comme un pays en train de s'émietter. Il ne restait déjà plus rien de l'ancienne base militaire US. Enfin, dans un grand craquement, le fragment supportant le dinghy se détacha à son tour. C'était un polygone d'un 1 km² que les vagues agitaient dangereusement. Juste en son centre, le canot dessinait une tache minuscule d'un vert incongru. Dès qu'elles eurent pris la mer, la température grimpa d'une dizaine de degrés. C'était à la fois bon et mauvais. Mauvais parce que la chaleur toute relative allait accélérer la fonte de l'iceberg. Yumiko remarqua que les bords de l'île de glace s'émiettaient trop facilement sous les coups de boutoir des vagues. Elle en fut contrariée, redoutant par-dessus tout que le bloc ne se retourne, comme cela se produit immanquablement dès que la partie immergée devient plus légère que l'autre. Elle décida donc de mettre le dinghy à l'eau, une entreprise difficile. Peggy Minchun n'avait toujours pas repris connaissance. Elle était cependant toujours en vie, les battements de son cœur, quoique très espacés, en témoignaient. Yumiko ne savait que faire d'elle. À deux reprises, elle fut sur le point de la pousser par-dessus bord. Quelque chose l'en empêcha. « Ce ne serait pas honorable, se disait-elle. Et puis, quel plaisir en tirerais-tu ? Il n'y a de vraie vengeance que si l'adversaire comprend qu'il est vaincu et qu'il se voit mourir. » Non, elle ne pourrait se satisfaire de l'assassinat d'une femme plongée dans le coma. Il lui faudrait attendre qu'une autre occasion se présente. Au bout d'une heure de navigation hasardeuse, Yumiko se sentit mieux. Les nanoparticules se réveillaient, dopant son métabolisme. Elle cessa de souffrir du froid. Des sirènes meuglaient aux quatre coins de l'horizon. Les navires qui s'étaient déroutés à l'annonce de la catastrophe avaient commencé à recueillir les survivants de Blackfinger Junction. Des centaines de personnes saisies par la température des eaux avaient déjà coulé à pic. Yumiko signala sa position en tirant une fusée de détresse. Une heure plus tard, un cargo, le Goldfish 3, lui lançait une échelle de corde et un filin auquel elle arrima Peggy Minchun. Dès qu'elles furent sur le pont, on les enveloppa dans des couvertures. Yumiko fit semblant de grelotter. On lui dit qu'un médecin allait l'examiner, ce dont elle ne voulait à aucun prix. Elle fut séparée de l'Américaine et conduite au réfectoire où s'entassaient d'autres rescapés en piteux état. La Japonaise se recroquevilla dans un coin, en attendant que les nanoparticules lui permettent de modifier son corps à volonté. Soit, la partie était remise à plus tard. C'était sans importance en vérité. Ses ancêtres ne lui avaient-ils pas donné la patience du buffle ? Peggy reprit conscience une heure plus tard, couchée sur une civière dans un entrepôt qui empestait le gasoil. Elle souffrait de gelures sans gravité. Le médecin de bord, jugeant que son état n'avait rien de préoccupant, l'abandonna à son sort. Elle ne conservait aucun souvenir de l'explosion. « J'étais en train de dégager le snow cruiser quand j'ai eu un malaise », se répétait-elle. « J'ai dû perdre connaissance. Ensuite ?»« Ensuite, quoi ?» Interrogeant les marins, elle apprit qu'elle avait été repêchée alors qu'elle dérivait à bord d'un dinghy en compagnie d'une jeune asiatique. Sans doute une native des Blackfingers. « Une très jolie fille », précisa l'un des matelots. « D'ailleurs, elle est à bord. Vous n'aurez aucun mal à la trouver parmi les rescapés. Une pin-up pareille, ça ne passe pas inaperçu. » Peggy se mit aussitôt en quête de celle qui l'avait sauvée. Curieusement, elle ne tarda pas à découvrir que les survivants embarqués sur le Goldfish 3 ne comptaient aucune jeune asiatique dans leur rang. La seule native sur laquelle elle put mettre la main fut une grosse et vieille femme aux cheveux gris, au visage ridé, enveloppée de haillons répandant une odeur atroce. De temps à autre, elle tirait de sa poche un morceau de graisse de phoque rance et le rongeait avec gourmandise. Parfois, elle coinçait une pipe ébréchée entre ses dents et fumait un tabac âcre dont les exhalaisons ne parvenaient pas à masquer son odeur de clochard d'Arctique. Bien évidemment, elle ne parlait pas un mot d'américain. Peggy s'en détourna avec un haussement d'épaules résigné. Il lui semblait pourtant avoir déjà vu cet inconnu quelque part. C'était moins l'allure générale que le regard. Oui, ce regard noir luisant d'une haine contenue. Elle était certaine de l'avoir déjà croisé. Mais où ?